pied sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
Pourquoi certaines personnes ont-elles peur des araignées ? Dans la revue Psychologie, un article consacré à l'arachnophobie, le nom donné à la phobie des araignées, donne l'exemple d'une femme qui, à l'occasion d'une analyse, découvre que sa peur des araignées est liée à une mère psychotique, elle-même maltraitée par sa propre mère et incapable d'aimer ses enfants comme il l'aurait voulu. Avec le recul d'une analyse de plusieurs années, elle saisit enfin le lien entre l'araignée effrayante et sa mère puis sa grand-mère, toute puissante et effrayante elles aussi, comme des sortes de monstres suceurs de sang, dit la revue Psychologie. Pour guérir sa phobie, il faudrait donc remonter à sa source. Il existerait toutefois une autre façon de se débarrasser de cette angoisse insoutenable à la vue d'un insecte velu, rampant et potentiellement grimpant sur le long de nos jambes. Marie-Eck Sutter et Merel Kind sont chercheuses au département de psychologie de l'Université d'Amsterdam. Elles ont développé un traitement inédit permettant d'éliminer en moins de 2 minutes la peur des araignées. Il est recensé par le site MaxiScience qui raconte l'expérience suivante. Une mygale est placée dans un bocal ouvert au centre d'une pièce. Dans la salle, une femme au regard affolé, arachnophobe, caractérisée. Prudemment, la patiente se dirige vers la créature grosse comme son poing. Une fois arrivée à proximité du bocal, elle tend la main et la plonge dans le récipient. Il se produit alors l'inimaginable. Non seulement, lit-on sur le site, la femme parvient à caresser la mygale, mais demande également à pouvoir le refaire. En moins de 2 minutes, la volontaire s'est débarrassée de sa peur handicapante des arachnides. Que s'est-il passé ? Ce résultat stupéfiant ne tient pas du miracle, mais du propranol, un bêta-bloquant généralement utilisé pour lutter contre l'hypertension. L'efficacité de ce médicament contre l'arachnophobie a été démontrée chez 14 autres personnes qui ont vécu une expérience similaire. Les volontaires ne pouvaient pas y croire, racontent les 2 auteurs de l'expérience dans le Washington Post. Certains ont même demandé s'ils pouvaient prendre les araignées dans leurs mains. Aujourd'hui, dans Les Pieds sur Terre, c'est la suite de notre série sur les phobies et les grands frissons. 2 histoires longues, terrifiantes, 2 traumatismes dont il n'est pas sûr qu'ils se guériront en moins de 2 minutes. Ils sont racontés par Judith Chétrit jusqu'à 14h sur France Culture.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Quand j'étais petite, quand je prenais l'avion, j'adorais ça. Je trouvais ça génial d'être près du hublot, de voir les nuages. J'adorais le décollage. Je trouvais ça impressionnant. Ça créait une espèce de sensation hyper forte que je trouvais géniale. Aujourd'hui, cette sensation forte, je l'ai vécue de manière dramatique. Du coup, quand elle se passe, je la supporte plus. On a beau me dire c'est le moyen de transport le plus sûr, j'en ai rien à faire. Enfin, ça reste un moyen de transport pour moi qu'on ne maîtrise pas. Si je suis dans l'air ou dans l'eau, je suis pas rassurée. Je me sens pas à ma place naturellement, en fait. Je m'appelle Héloïse, donc aujourd'hui j'ai 38 ans, je vis à Bordeaux et je suis photographe indépendante. Alors l'événement dont je vais vous parler, c'est un incident ou accident, certains parlent ça un accident, d'autres incidents, d'avion donc, qui s'est passé le jour de mes 20 ans, le jour de mon anniversaire, puisque c'était un cadeau que mes parents m'avaient offert pour partir aux États-Unis, à New York, voir ma cousine qui travaillait là-bas pendant quelques années. Donc le 17 avril 1998, je pars pour l'aéroport, prendre mon avion. Je me retrouve assise au fond de l'avion, à côté d'un homme un peu bizarre qui me parlait tout le temps et qui me saoulait un peu, je dois dire. Et je crois qu'il devait avoir peur de l'avion, ou je sais pas, mais en tout cas il avait sa petite fiole d'alcool et du coup il n'arrêtait pas de boire. Il sentait l'alcool, il devenait un peu désagréable, un peu oppressant. Donc j'ai demandé au steward si je pouvais changer de place. Et je me retrouve située entre 2 femmes, une française et une américaine. Donc on sympathise, on discute, et puis la compagnie nous sert un petit repas. Et là, à ce moment-là, il y a quelque chose qui se passe qui est très difficile à décrire, mais comme effectivement une chute très violente qui dure 1 seconde. On se cogne tous la tête contre le haut de l'avion. Moi, je garde toujours une ceinture un peu lâche, même si elle n'est pas serrée. Et c'est, je pense, ce qui m'a sauvée d'une blessure parce qu'effectivement, j'ai touché le haut de l'avion, mais mon crâne ne s'est pas ouvert, contrairement aux personnes devant moi et derrière moi qui n'avaient pas de ceinture du tout. Donc, ils ne nous avaient pas dit de mettre une ceinture, ils nous l'ont dit après. Et on se regarde toutes, on entend des gens qui crient, qui pleurent, toute la nourriture des plateaux est sur nos têtes, on retrouve des passeports de personnes qui sont trois rangs plus loin, on voit l'intérieur de l'avion vraiment très abîmé. Parce que les coffres qui contiennent les sacs, en fait, sont tombés et se sont défaits. On a une hôtesse de l'air sur le côté qui crie, qui a pris le chariot sur elle et qui est par terre, donc qui a besoin d'aide. On voit les stewards courir. Voilà, une espèce de tension et de stress commence à s'installer et on ne comprend pas ce qui s'est passé. On ne savait pas si on allait s'écraser ou pas. Et là, on s'est tenu les mains avec mes voisines, on s'est serré fort les mains. Du coup, j'ai commencé à me sentir très éloignée de ma famille, de mes amis. Et je me suis dit, j'ai 20 ans aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Je vais mourir. Donc j'avais l'impression qu'effectivement, voilà, c'était la fin, quoi. J'étais en train de vivre les dernières minutes de ma vie. Et moi, j'ai l'impression que ça a duré une éternité. Il y a un steward qui passe, peut-être au bout d'une demi-heure, je dirais, et puis tout le monde l'interpelle. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va nous arriver? Et il dit, je sais pas, on est en train de voir. On a eu un problème, des perturbations. On va essayer d'atterrir le plus tôt possible. On n'atterrira pas à New York. Bon, ok, mais on atterrit dans combien de temps? Et pendant 2 heures, ça a été une véritable torture de scènes dramatiques, de ne pas savoir à quel moment on allait atterrir, où. Mais on ne sait pas ce qui s'est passé. On sait qu'il y a eu une espèce de chaos, une chute de l'avion. On ne sait pas de combien, on ne sait rien. On sait juste, peut-être une demi-heure avant d'atterrir, qu'on va atterrir à New York, que les journalistes nous attendent et que du coup, on va être obligé de passer par une autre porte pour pas que les journalistes... nous accueillent parce que, je sais pas, peut-être qu'ils veulent pas, enfin, j'en sais rien. En tout cas, il fallait pas croiser les journalistes, donc ils nous ont prévenu qu'on aurait un accès spécial pour être évacués. Donc on atterrit effectivement finalement à l'aéroport de New York. Et quand on arrive, ils nous expliquent les pompiers vont arriver, vont d'abord évacuer les blessés. Donc ceux qui ne sont pas blessés, vous restez assis, on vous évacuera après. Donc on attend, on reste dans l'avion, je pense qu'on est resté 1 heure. Et puis là, une fois qu'on est passé par l'endroit qu'ils nous ont indiqué pour éviter les journalistes, on n'a pas eu de papier de personnes de la compagnie qu'on pouvait contacter par la suite. On a été livrés à nous-mêmes, on devait juste rentrer chez nous et suivre notre vie normale. La compagnie ne nous a pas recontactés, n'a pas donné de quoi la contacter si besoin. Je pense qu'ils ont dû faire ça avec les personnes blessées, mais toute personne non blessée ne faisait pas partie des suites en tout cas. Et pour moi, alors, ce qui venait de m'arriver, c'était un choc hyper violent. Je m'y attendais pas. Je pensais même pas que l'avion, y avait ce genre de perturbations possibles. Et donc, pour moi, c'était on montait dans un avion, ça se passait bien, tant mieux. Si ça se passait mal, c'était un crash. Et du coup, j'arrive chez ma cousine, paniquée. Je lui dis, j'ai failli mourir parce que c'est l'impression que j'ai eue. Pour moi, j'avais failli mourir. Et puis j'appelle ma mère et en larmes, je lui dis je suis traumatisée, je viens de vivre quelque chose d'horrible, je suis pas bien du tout, je peux pas reprendre l'avion, je peux pas rentrer en France en avion, il faut que t'appelles la compagnie. Alors dans un moment de panique, ma mère me dit écoute, calme-toi, on s'appelle demain matin, t'es chez ta cousine, tout va bien, on s'appelle demain. Et bien en fait en France, le lendemain, le jour se lève et les nouvelles annoncent qu'il y avait des Français, puisque donc c'était un vol Paris-New York, qu'il y avait une Française de blessée. Et donc ma mère me dit, oui effectivement, je comprends que t'aies pas envie de remonter dans un avion, on va appeler la compagnie d'assurance, on va voir ce qu'on peut faire pour toi. Donc la compagnie d'assurance a proposé de m'envoyer un psychiatre à New York pour me rejoindre, discuter avec moi, m'aider à me calmer et puis m'aider à repartir en avion. Donc du coup, ben, le psychiatre arrive, je crois, assez rapidement, 24 heures ou 48 heures après. Et je me retrouve à finalement séjourner à New York avec mon psychiatre. Je me souviens juste de moments comme des flashs. Je me souviens de moments où je suis effectivement au musée d'art contemporain avec lui. Je me souviens de moments où je suis en train de manger un bagel avec lui dans un petit bistrot. Je me souviens de moments où il m'interroge un peu sur mon passé. Et on est dans un café typique américain. Des ambiances comme ça, je le vois m'emmener, me balader à Chinatown, etc. Il part du principe qu'il veut me préparer, en fait, me faire reconnecter à une réalité et me faire prendre l'avion correctement. Il veut absolument que je le reprenne sans prendre de médicaments, avec une préparation qu'il fait avec moi pendant le voyage, quoi. Et je pense aussi, avec le recul, que peut-être il m'emmenait dans des endroits aussi pour me remettre dans des contextes de pièces fermées, peut-être pour voir si j'avais de la claustrophobie à gérer ou des choses comme ça. Donc du coup, la date du retour arrive et il me dit j'ai la boîte de médicaments, j'ai tout ce qu'il faut, on prend l'avion, je voudrais que tu te retrouves à la même place, au même endroit qu'à l'aller. Et sache qu'à tout moment où ça va pas, je pourrais te donner les médicaments. Donc voilà. Et du coup, je me retrouve au milieu, à la même place. Déjà, je le vis pas hyper bien. Une heure, deux heures de vol passent à peu près bien. Et puis là, le pilote nous annonce qu'il y a des perturbations. Donc là, crise d'angoisse. Du coup, il m'a donné les médicaments et j'ai dormi pendant presque 24 heures au retour d'affilée, tellement j'étais stressée. Donc le retour s'est pas bien passé. J'ai confirmé que j'étais pas prête encore à remettre les pieds dans un avion correctement. J'ai développé une forte claustrophobie, c'est-à-dire que je supportais pas d'être coincée dans une situation. Mais alors, quand on pense à claustrophobie, on pense à une pièce enfermée. C'était pas que ça, ça allait très très loin. C'est-à-dire que ça pouvait aller jusqu'à, si j'étais dans une queue de supermarché pour faire les courses, le simple fait d'avoir trois personnes devant moi et trois personnes derrière moi et de m'être engagée pour faire mes courses et d'avoir mon panier avec tout dedans, et donc je ne peux pas sortir de cette situation à moins d'abandonner un panier, le simple fait d'être coincée dans une situation me rendait claustrophobe et déclenchait des angoisses très fortes. J'avais jamais vu de psychiatre de ma vie. Ce qui a été en fait le plus dur dans cet événement, c'est j'ai l'impression d'être passée d'un monde très propre, très, très beau, tout parfait. Alors, pour la première fois, j'ai l'impression d'être confrontée à une vraie peur et au fait que la vie, c'est pas juste ma petite vie à Versailles, dans ma famille, avec mes amis, et que j'ai l'impression de prendre conscience de quelque chose de très fort au niveau humain et au niveau de ma place dans la vie. Donc aujourd'hui, je reprends l'avion sans médicaments parce que je veux affronter ma peur, en fait, et je vais pas le nier, j'ai encore peur, je suis pas à l'aise, mais en même temps, c'est des petits trajets que je fais, donc c'est 1h30, 2h, pas plus. Par contre, faut pas me parler avant et faut pas me parler pendant. Ce qui se passe, c'est que par contre, dès que je monte l'escalier pour rentrer dans l'avion, j'ai toujours cette appréhension de me dire est-ce que ça va bien se passer ? Est-ce que je vais arriver sans problème, quoi ? Et une fois que je suis assise sur mon fauteuil, quand je vois le ch'ting de la ceinture qui se met, j'ai toujours cette espèce d'amertume de me dire effectivement, il peut y avoir des perturbations. Donc ça me rappelle un peu à l'ordre. Le test de l'air arrive, j'ai pas du tout envie d'écouter ce qu'elle a à dire, donc je regarde ailleurs, je me bouche les oreilles, je veux pas la voir parler de potentiels drames et de ce qu'on doit faire. Donc je mets des œillères en fait et je me ferme complètement pendant tout le temps du trajet jusqu'à la fin. Mais s'il y a une secousse, ce qui est arrivé, par contre là j'ai l'angoisse qui remonte. Tant que ça se passe bien, je reste crispée comme une statue. S'il y a une secousse, je perds tous mes moyens.
France Culture, les pieds sur terre.
Des amis m'ont proposé d'aller faire un trek au Népal, un pays que je ne connais pas et qui me faisait vraiment envie. Je suis donc parti avec trois amis. C'était au milieu du mois d'avril 2015, dans la Tsum Valley. Alors la Tsum Valley au Népal, c'est une vallée assez secrète. Et c'est dans cette vallée que les Népalais recrutent le Dalai Lama, bébé. Et c'est une vallée qui était complètement interdite aux touristes et qui a été ouverte seulement 2 ans avant qu'on y aille. Donc c'était intéressant de rencontrer le peuple népalais d'origine, assez isolé. Donc là, on était à peu près à 2500 mètres. Mais si on additionne les montées et descentes, ça faisait peut-être en effort physique, monter 3 fois 1000 mètres dans la journée et redescendre 3 fois 800 mètres ou 900 mètres. En fait, on gagne peu d'altitude, mais ces torrents étant tellement inaccessibles, pour passer, il faut monter dans la montagne et redescendre sur le torrent en permanence. Alors, nous sommes arrivés au terme de notre ascension. L'ambiance était bonne. Notre ami avait eu la bonne fortune d'amener 2 bouteilles de Ricard et un jambon avec du fromage des Pyrénées. Ça faisait plaisir de pouvoir profiter de ces petits délices. Et on a décidé de redescendre. Finalement, on était arrivé au milieu du chemin. Il fallait redescendre. Donc, on est redescendu tranquillement. Moi, j'étais toujours un petit peu à la traîne. Peut-être le plus vieux de l'équipe ou un peu fatigué aussi par la montée. Donc, j'avais tendance à flâner derrière. J'étais pas vraiment avec les autres. J'étais toujours avec mon Sherpa. Et là, à 11h50, je m'en souviendrai toute ma vie, le monde s'est arrêté de tourner. C'est-à-dire que la Terre s'est mise à trembler d'une manière extraordinaire, horizontalement et verticalement. En une seconde, on réalise que c'est un tremblement de terre. Et puis, d'un seul coup, on dit c'est un gros tremblement de terre parce qu'on ne peut pas tenir pratiquement debout. Et là, les cailloux commencent à tomber et ils tombent de très haut. C'est très difficile de juger combien de temps a duré ce tremblement de terre. Parce que d'abord, un tremblement de terre, c'est une secousse assez longue, je dirais peut-être 45 secondes ou une minute. Mais il y a beaucoup de répliques derrière qui s'enchaînent presque en continu. On a l'impression que le sol est tout mou et qu'on est complètement ivre, en fait. Et ça fait un bruit de tonnerre, en fait. Ça sent très rapidement la poudre, ça sent le silex, ça sent le caillou, et au bout de ces 45 secondes, ou cette minute, je dirais, les cailloux se mettent à descendre de très haut, parce que les montagnes au-dessus, c'est les monts Ganesh qui sont, je crois, si ma mémoire est bonne, 7000, 7500 mètres. Heureusement, là où on se trouvait, où je me trouvais avec mon Sherpa, qui, entre parenthèses, était autant terrifié que moi, puisqu'il avait tendance à se cacher derrière moi, alors que moi, je voulais me cacher derrière lui, donc c'était assez comique, si on peut dire. Mais les cailloux sont mis à descendre, et heureusement, il y avait des grandes herbes, ou des grandes fougères, ou des plantes comme ça, dans la pente au-dessus, et on pouvait deviner les cailloux qui descendaient à plusieurs centaines de kilomètres heure, et certains étaient assez gros comme 2 ou 3 ballons de rugby, par exemple, ou de football, vous voyez à peu près la dimension. Donc, hors de question d'en prendre un sur la tête ou dans le corps, parce que je pense qu'on n'aurait pas survécu. C'est une grosse frayeur. Et lorsque les cailloux ralentissent un petit peu de tomber, il y a une nouvelle secousse qui prend et ça recommence. On ne pouvait pas bouger, on ne savait pas où se mettre. Le chemin sur lequel on était abrupt, à flanc de montagne, et lui-même risquait de partir, c'est évident. Ça fait entre 60 cm et 1 mètre de large. Et dessous, il y en a un pic à peu près de 2000 mètres ou 1500 mètres. Donc c'était très, très angoissant. Les Ganesh au-dessus, un chemin et le torrent en dessous. Bon, là, une première accalmie, on s'est regroupé et on a eu une assez peur puisque quelqu'un a crié. Monique est tombée dans le ravin. Elle a reçu un caillou sur la jambe qui l'a fait basculer dans le vide et elle s'est arrêtée par des buissons. Son mari et le Sherpa d'Orgy sont descendus la chercher, l'ont ressorti par la peau du dos. C'était heureusement pas trop grave. Donc on a pu reprendre notre chemin avec peine et misère parce que par endroits le chemin était arraché par des éboulements. Et à nouveau, toutes les heures, toutes les 2 heures, nouvelle secousse et ça a recommencé comme ça jusqu'au soir. Là, dans l'après-midi ou dans la soirée, on est arrivé dans un village qui a été complètement dévasté par le tremblement de terre. Ce village était sur un plateau. Toutes les maisons en pierre sèche étaient écroulées, avec des morts à l'intérieur et des gens qui étaient en train d'essayer de sauver ce qu'ils pouvaient de leur maison. Et étonnamment, tous les habitants étaient dans le champ. Il s'est mis à pleuvoir, à neiger d'ailleurs. Et les enfants continuaient à jouer. Les parents étaient tristes, évidemment, mais très dignes. Pas de cris, pas de pleurs. Et tous ensemble, on a participé, et eux ont participé à construire des espèces d'abris de fortune avec des branches et des toiles de plastique qu'on trouve dans tous ces pays-là. Et la terre continue à trembler. Hein. Toutes les heures, ça tremblait. Et donc la nuit s'est passée comme ça. Je dois avouer humblement qu'il y a une bouteille de pastis qui est passée là ce soir-là, parce qu'on était quand même le moral dans les chaussettes. On a décidé le lendemain matin, notre Sherpa nous a dit qu'il ne faut pas rester ici, parce que là on va y rester pour l'éternité. Il faut descendre, donner l'alerte. Il nous a dit, je crois qu'il y a un téléphone en dessous à l'OCPA. L'OCPA qui est normalement à 2 heures de marche. Mais dans quel état était le chemin, on ne savait pas. Là, c'est la deuxième grosse angoisse qu'il y a eu, c'est que le chemin était en très mauvais état. Et à un moment donné, il y a une secousse, je ne me souviens plus de l'heure exacte, il y a une grosse secousse à peu près aussi forte que celle de la veille, qui a dit non, ça recommence. Et là, j'ai vu arriver 2 autobus, taille d'un autobus, des cailloux noirs, descendant, mais vraiment à une vitesse vertigineuse, droit dessus, hein, je ne pouvais rien faire. Il y a 2 cailloux l'un derrière l'autre. J'ai eu que le temps de me plaquer le visage dans la paroi, où je sens encore la terre dans les narines et dans la bouche, parce que j'étais tellement incrusté dans la terre que j'aurais été plat comme tout ce qui était possible, le plus plat possible, le plus enfoncé possible. Et le premier caillou m'a arraché ma casquette. C'est-à-dire qu'il y a sur les casquettes, vous savez, il y a un bouton pour la couture. Ben, ça m'a fait mal. Il a tapé sur ce bouton et il m'a arraché ma casquette qui est partie dans le vide. Donc il m'est passé à moins de 5 mm du sommet du crâne. Et le deuxième m'est passé au-dessus. Il a rebondi, je ne sais pas sur quoi. Il est passé un peu plus haut. J'ai senti le souffle. Par contre, il a tapé le sol derrière mes chaussures et il a failli m'entraîner parce que j'avais des bâtons de marche. Il a tapé un bâton de marche, il a enlevé le chemin, et heureusement, mon bâton n'est pas parti avec, et j'ai failli basculer en arrière. J'ai dit là, celui-là, et puis je me retourne, et il n'y avait plus de chemin derrière mes pieds. Donc, il a fallu marcher et descendre, accroché à des branches, je ne sais pas quoi, pour aller retrouver le chemin de l'autre côté. Et c'est 10 minutes où un faux pas, et vous partez à 1500 mètres en dessous, quoi. Donc, on se dit, si jamais la terre tremble pendant qu'on est en train de traverser ce truc-là, on y a droit. Donc on traversait un par un. On a fini par arriver à un village qui s'appelle L'Okpa, où là, miracle, une maison était restée intacte. C'est le lodge où j'avais couché à l'allée d'ailleurs. Et notre Sherpa a dit, je crois qu'il y a un téléphone là-dedans, téléphone satellite par batterie solaire. On a rencontré 2 Américains qui ont subi le tremblement de terre là et qui n'ont pas bougé. On a eu un contact avec l'ambassade de France qui nous a informé que c'était un tremblement de terre à l'échelle de toute la chaîne himalayenne et qu'il y avait des dizaines de milliers de morts et que nous, on n'était pas blessés, donc ils ne pouvaient pas s'occuper de nous de toute manière parce que l'armée népalaise avait réquisitionné tous les hélicoptères et gérait la crise. On a demandé de prévenir nos familles, ce qui a été fait. On est resté là, on a regardé le chemin pour descendre plus bas, mais là, il n'y avait plus de chemin. C'était vraiment techniquement impossible pour un occidental de descendre ou un non-alpiniste de descendre. On a vu les hélicoptères passer tous les jours. Alors, au début, on sortait dehors avec des chiffons, des serviettes, des trucs agités dans tous les sens. On n'arrivait pratiquement pas à avoir de communication téléphonique, c'était très difficile. Et puis, ça ne servait à rien de toute manière. Alors là, j'ai dit, bon, il faut quand même, si un hélicoptère doit venir, il faudra un endroit pour qu'il se pose. Il n'y en avait pas. Donc on a construit un héliport. On a aplani une plateforme avec des pelles, des pioches, des barres à mine. Donc on a fait une grande plateforme, assez grande, pour accueillir un hélicoptère. Ça nous a pris 3 jours à peu près. On l'a appelé L'Okpa International Airport, Terminal 1. On a peint une pancarte, on a fait une espèce de portique. Et on a inauguré le Lokpa International Airport. Alors, le quatrième jour, l'Américain vient me voir, il dit « Jean-Pierre, je suis désolé, mais demain matin, j'ai eu l'ambassade américaine, il nous envoie un hélicoptère des forces spéciales américaines de telle et telle société qui viendra nous prendre à 9h, mais il peut pas vous prendre vous parce que vous êtes français, ils ne prennent que des Américains. » Et là, épisode tragicomique, un hélicoptère semble descendre, et finalement se pose sur le Lokpa International Airport. Alors nos deux Américains sautent dedans, et le pilote leur dit « Vous êtes français ?» En français. « No, no, American. » Alors descendez, je prends 4 Français. Les Américains sont descendus. Nous, les 4 Français, on s'est précipités dans l'hélicoptère, mais... C'est là une partie, moi, qui m'a beaucoup bouleversé, c'est qu'on n'a pas eu le temps de dire au revoir à personne. On a quitté le navire comme des voleurs, en fait. Je crois que charger l'hélicoptère et décoller, ça a pris 20 secondes. On était assis les uns sur les autres, tassés. On n'a pas de ceinture de sécurité, rien du tout. On s'est jeté dans l'hélico, on est parti. En plus, il fallait partir parce que la météo se dégradait rapidement. La visibilité n'était pas très bonne. Donc l'hélico est descendu sur Katmandou. Ça a pris à peu près 30 ou 40 minutes. Là, on a vu les dégâts. Tous les villages étaient rasés. Et séance émotion où j'en ai pleuré. C'est rare que ça m'arrive, mais là, j'en ai pleuré. En approche de Katmandou. Je reçois un appel d'ici sur FaceTime. Et je vois mon épouse qui m'appelle. Elle me dit, t'es où? Je suis dans l'hélicoptère qui va se poser. Alors là... Il y a eu un moment de réseau en l'air, alors qu'on n'avait eu aucune nouvelle depuis 15 jours, évidemment. Et ça a été très, très, très émouvant pour tout le monde. Donc, ma femme a pu assister avec les enfants, ici, à l'atterrissage à Katmandou, en direct, comme une émission de télévision. C'était incroyable.
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre, le grand frisson, troisième épisode, un reportage de Judith Chétrit, réalisé par Anne Kobilac. Merci à Jean-Pierre Clément, à Jacques Perrier et à Héloïse. Sandrine Chaperon, c'est l'attachée de production des Pieds sur Terre. Livia Garrig, c'est notre stagiaire. Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux, on vous y attend nombreux. Change my-
but it's over.